On commence par le journal de Catherine Dutu. Bonjour Catherine.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Giuseppe Conte a été officiellement chargé hier de former le prochain gouvernement italien. La composition de son équipe, objet d'âpres négociations entre le mouvement 5 étoiles anti-système et la Ligue, parti d'extrême droite, objet de vives inquiétudes également dans l'Union européenne.
Un éventuel rapprochement entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine, le président français est reçu par son homologue en Russie, visite de 2 jours. Les dossiers iraniens et syriens au menu des discussions.
À la une, en France, plusieurs questions. Des conseillers Pôle emploi vont-ils se retrouver au chômage. Le comité central de l'entreprise publique se réunit aujourd'hui pour discuter de l'éventuelle suppression de 4000 postes d'ici 2022. Et puis à la SNCF, après les résultats de la consultation lancée par les syndicats qui a vu une écrasante majorité des cheminots refuser le projet de réforme du gouvernement. Une question donc, alors que le Premier ministre reçoit de nouveau les syndicats demain à Matignon, la vote-action des cheminots peut-elle changer la donne? Peut-elle changer la donne notamment sur le projet qui est examiné au Sénat? Ce sera le thème du billet économique d'Annabelle Grelier à la fin de ce journal.
Et puis dans une quinzaine de minutes, la question du jour. Catherine, quel bilan provisoire pour Parcoursup? On posera la question à Hervé Christoffel, secrétaire général de la FNESUP FSU.
L'Italie a enfin un nouveau président du Conseil. Giuseppe Conte, professeur de droit de 53 ans, sans aucune expérience politique. Il a été désigné hier par le président italien. Giuseppe Conte, l'homme du compromis entre la Ligue, parti d'extrême droite, et le mouvement 5 étoiles, qui se revendique comme anti-système. Giuseppe Conte a maintenant la lourde tâche de composer le gouvernement le plus eurosceptique de l'histoire de l'Italie, Mathilde Imberti.
Première mission pour Giuseppe Conte, rassurer ses homologues européens. Ainsi, hier soir, tout juste après sa nomination, il a déclaré vouloir confirmer la place de l'Italie en Europe et dans le monde. Ce juriste, inconnu du grand public, cherche d'un autre côté à asseoir sa légitimité auprès des Italiens, assurant qu'il avait participé à la conception du programme de l'Alliance Ligue 5 étoiles et qu'il saurait défendre l'intérêt de ses compatriotes.
Je suis professeur et avocat. J'ai défendu de nombreuses causes dans ma carrière. Je m'engage à défendre l'intérêt de tous les Italiens et à tous les niveaux, européens et international, en dialoguant avec les institutions européennes et les représentants des autres pays. Je vous propose de devenir l'avocat défenseur du peuple italien.
Les premières frictions avec l'Europe pourraient se manifester autour du ministre de l'économie. La Ligue a confirmé vouloir placer à ce poste Paolo Savona, un économiste anti-euro, alors que depuis plusieurs jours, les principaux pays d'Europe appellent l'Italie à respecter ses engagements, et notamment à maintenir sous contrôle sa colossale dette publique, la plus importante après celle de la Grèce.
Un gouvernement populiste en Italie, troisième économie de la zone euro, un gouvernement qui veut augmenter les dépenses publiques tout en baissant les impôts, de quoi donner depuis plusieurs jours des sueurs froides à Bruxelles, on l'entendait, et aux 27 partenaires européens de Rome. Plusieurs avertissements depuis ce week-end, mais un silence assourdissant hier soir. La correspondance à Bruxelles de Pierre Benazé.
Le silence des dirigeants européens quant à la nomination de Giuseppe Conte est peut-être dû à une volonté d'accorder le bénéfice du doute au nouveau président du Conseil italien ou au fait qu'il est un complet inconnu. En revanche, le programme de la coalition est connu et il a de quoi rendre les Européens dubitatifs, même si l'option d'une sortie de l'euro a été en fin de compte abandonnée. L'idée d'une renégociation des traités européens est maintenue. Elle a de quoi faire trembler les homologues de Giuseppe Conte, car ceci est désormais considéré dans l'UE comme une boîte de Pandore. La volonté de revoir la politique d'immigration européenne risque au contraire de rencontrer des échos favorables, en particulier en Europe centrale, comme en Hongrie et en Pologne. C'est peut-être là d'ailleurs que réside la crainte principale des Européens, voir l'Italie, un des plus importants pays de l'UE, rejoindre le groupe des pays qui veulent remettre en cause le fonctionnement de l'Union. Les Européens ont multiplié les avertissements contre les dérapages budgétaires et l'approfondissement de la dette italienne qu'entraînerait l'actuel programme de coalition, mais ils vont maintenant devoir composer avec Giuseppe Conte s'ils veulent se le concilier. Certains d'entre eux le rencontreront au Québec lors du G7 de Charlevoix, mais c'est lors du prochain sommet de l'UE, les 18 et 19 juin, que Giuseppe Conte subira son baptême du feu européen.
Direction l'Allemagne à présent, où l'Office fédéral chargé des réfugiés est au cœur d'un scandale de fraude. À Brême, au nord-ouest du pays, des fonctionnaires sont accusés d'avoir fourni illégalement des papiers à quelques 1200 demandeurs d'asile. Pour tenter de faire toute la lumière sur cette affaire, le ministre de l'Intérieur s'est enfin décidé hier à prendre des mesures. Cyril Sauvageau.
Plus aucune demande d'asile examinée jusqu'à nouvel ordre. L'antenne régionale de l'Office des réfugiés, mise en cause dans cette affaire, va donc se retrouver au chômage technique, en attendant d'en savoir plus. Le ministre de l'Intérieur, Horst Seehofer, a tranché, lui qui aura mis plusieurs semaines à prendre la mesure du scandale. Près de 20 000 dossiers de demande d'asile vont devoir être réexaminés, car on ne connaît pas encore précisément l'étendue de la fraude. Au moins 1 200 demandeurs d'asile ont réussi à obtenir des papiers alors qu'ils ne remplissaient pas les critères. C'est une fonctionnaire de l'Office régional qui a mis en place ce système en échange de compensations financières avec l'aide de collègues et d'avocats défenseurs des migrants. Qui savait et jusqu'à quel échelon, c'est ce que devra déterminer l'enquête. Hier, le quotidien Bild révélait que le parquet fédéral a décidé d'étendre son enquête à la patronne de l'Office pour les réfugiés à Nuremberg. Il s'agit de savoir si la direction a pu être au courant et si des dysfonctionnements similaires ont pu exister ailleurs en Allemagne au moment de la grande vague d'accueil des réfugiés en 2015.
La question migratoire en France et l'évacuation de campements à Paris annoncée hier par le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb après des semaines de tensions avec la maire socialiste de la capitale, Anne Hidalgo. On y revient dans le journal de 7h30 et dans les matins à partir de 7h40, Guillaume Hermer.
Nous recevrons le député de La République En Marche, Aurélien Taché, et aux environs du 8h20, la sociologue Isabelle Coutant. 7h06 sur France Culture, la suite de votre journal. Catherine Dutu, Donald Trump pourrait bien ouvrir un nouveau front sur la guerre commerciale.
À quelques jours de la fin du délai exonérant l'Europe de taxes punitives sur l'acier et l'aluminium, Donald Trump envisage d'imposer donc de nouvelles taxes douanières, cette fois sur les importations de véhicules aux États-Unis, y compris les camions et les pièces détachées. Donald Trump veut déterminer l'impact de ces importations sur la sécurité nationale américaine, argument utilisé pour tenter de déjouer le déficit américain et le déséquilibre de la balance commerciale avec l'Union européenne. Les constructeurs allemands sont particulièrement visés. Les États-Unis accusés ce matin par le régime syrien de Bachar al-Assad d'avoir frappé plusieurs positions militaires du régime dans l'est du pays, tout près de la ligne de front avec le groupe État islamique. Ces attaques aériennes n'auraient causé que des dégâts matériels selon l'agence officielle syrienne. La guerre en Syrie au menu notamment d'une visite de 2 jours d'Emmanuel Macron en Russie à l'occasion du forum économique de Saint-Pétersbourg où le président français sera reçu par Vladimir Poutine. La Syrie, source de divergences entre les deux hommes, mais il pourrait se rapprocher pour sauver l'accord sur le nucléaire iranien après le retrait des États-Unis du texte signé en 2015. Donald Trump souhaitait notamment élargir l'accord et inclure une limitation de l'influence de l'Iran dans la région, notamment aux côtés du régime de Bachar al-Assad en Syrie. Dans le dossier syrien, justement, y a-t-il des tensions entre Moscou et Téhéran, toutes deux alliées de Damas ? Vladimir Poutine a demandé publiquement l'évacuation à terme de toutes les forces étrangères en Syrie, dont les combattants iraniens, ce que demandait donc déjà les États-Unis face à cette double pression de Moscou et de Washington. Damas a souhaité réagir, Eric Biegala.
Le vice-ministre syrien des Affaires étrangères a cru bon de le répéter publiquement ce jeudi. Le rôle et la présence du Hezbollah et de l'Iran en Syrie ne sont même pas discutables. Leur départ n'est pas à l'ordre du jour. C'était la réponse syrienne à la série d'injonctions des uns et des autres, en particulier des Américains, mais aussi des Russes, à ce que Téhéran et ses alliés évacuent au plus vite le terrain syrien. Pour l'administration Trump, il s'agit d'un objectif clair. La présence en Syrie des forces spéciales américaines, environ 2000 hommes, répond à la nécessité d'y combattre les derniers éléments de l'État islamique, mais aussi, et peut-être même surtout, de contrer l'expansion militaire iranienne de plus en plus évidente dans le pays. Pour la Russie, la sortie de Vladimir Poutine la semaine dernière, confirmée par son représentant spécial pour la Syrie, comme quoi toutes les forces étrangères, Iran et Hezbollah compris, devraient à terme quitter le pays, est plus étonnante. C'est ensemble, en effet, qu'Iraniens et Russes ont monté la campagne militaire de soutien à Bachar al-Assad à partir de l'été 2015. Les Russes déployant leur aviation, les Iraniens leurs troupes au sol, essentiellement des supplétifs libanais, irakiens ou même afghans. Le revirement russe s'explique sans doute par le nouveau tournant qui est en train de prendre le conflit syrien. Israël y intervient de plus en plus ouvertement, de plus en plus lourdement, visant les positions des Iraniens et de leurs affidés par des frappes aériennes. Or, la Russie seule disposerait des capacités de contrer les attaques israéliennes grâce à ses puissantes batteries de missiles anti-aériens installées en Syrie. Les Russes n'en ont rien fait jusqu'à présent et ils n'ont manifestement aucune envie de se retrouver dans une guerre israélo-iranienne en Syrie. La manière la plus simple de l'éviter, maintenant que du point de vue de Moscou, le camp de Bachar al-Assad a pratiquement gagné sa guerre, ce serait sans doute qu'effectivement, les ennemis patentés d'Israël et facultés à de Syriens.
Des conseillers Pôle emploi vont-ils se retrouver au chômage? Le comité central de l'entreprise publique se réunit aujourd'hui pour en discuter. L'idée vient de la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, supprimer 4000 postes d'ici 2022 pour accompagner la baisse du nombre de chômeurs l'an dernier. Sauf que hier, on a appris que ce nombre était reparti à la hausse ce trimestre, plus 0,2% selon l'INSEE. Jean-Marie Pilon est maître de conférence à l'université Paris-Dauphine et il trouve que cette annonce est surprenante, sachant que les 55 000 fonctionnaires de Pôle emploi sont déjà débordés.
Alors, il faut bien avoir en tête que le périmètre de Pôle emploi est en fait un peu en dessous de ce que peuvent connaître nos voisins, que ce soit les Anglais ou les Allemands. Ce qu'on observe, c'est que dans le cas de la France spécifiquement et dans le cas de Pôle emploi, eh bien en effet, la plupart des conseillers ont des portefeuilles à gérer qui dépassent très largement leur capacité de réception. Et donc on a déjà des agents qui sont surchargés, des agents qui ne peuvent pas effectuer les fonctions pour lesquelles ils sont engagés et rémunérés. Et donc de ce fait, là encore, ce type d'annonce peut paraître un peu surprenant. Simplement une petite précision, en effet, il y a 55 000 salariés à Pôle emploi. En revanche, parmi eux, seuls 30 ou 32 000 exercent le métier d'accompagnateur de chômeurs. Il faut bien avoir ça en tête. C'est-à-dire que si on supprime 4 000 accompagnateurs, en fait, on se retrouverait avec une institution qui aurait pour fonction de recevoir les demandeurs d'emploi, mais qui n'aurait plus que la moitié de ses effectifs occupés à cette tâche.
Jean-Marie Pilon, maître de conférence à l'université Paris-Dauphine, il répondait à Benjamin Delisle.